Lundi 24 janvier, le conseil municipal d'Edmonton était supposé discuter d'une motion sur la décriminalisation des drogues. Cependant, celle-ci a été reportée au 7 février. Pour nous parler de ce que la décriminalisation de drogues apporterait, le professeur en psychoéducation de l'Université de Montréal, Jean-Sébastien Fallu, est avec nous. Bonjour, M. Fallu.
Bonjour.
Tout d'abord, qu'est-ce que la décriminalisation de drogues apporterait à la société?
Ben déjà, le concept de décriminalisation ne peut pas dire la même chose pour tout le monde, même les scientifiques en débattent dans la population. Ça veut dire toutes sortes de choses, incluant retirer du code criminel la possession simple. Ici, on parle surtout de possession simple. Et ça peut vouloir dire de donner des contraventions, ça peut vouloir dire de forcer le traitement, ça peut vouloir dire d'avoir des mesures de justice alternatives, bref, toutes sortes de possibilités. Et c'est justement, je dirais, un enjeu fondamental là, dans le débat sur la décriminalisation, parce que de plus en plus, il y a effectivement un consensus assez large pour la décriminalisation, mais c'est dans le détail que les gens sont pas tous du même avis sur ce qu'on doit faire. Bon, je dirais qu'on peut séparer quand même en deux grands modèles. Il y en a un qui est axé sur une vision, disons, médicale, pas seulement de santé publique, mais pathologisante là, des personnes qui consomment et qui veut obliger le traitement et les soins. L'autre qui est beaucoup plus axé sur une vision, je dirais, plus collée à la réalité, c'est-à-dire que toutes sortes de personnes qui consomment, certains qui n'ont pas besoin de soins, certaines qui n'ont pas besoin de soins. Et dans ces modèles-là, on parle plus de d'offrir des services qui soient accessibles, de travailler de concert avec les représentants des personnes qui consomment, les groupes communautaires, et d'être beaucoup plus axé sur une vision humaniste et pragmatique. Bon, dans les deux cas, c'est sûr que ça peut aider à justement changer au moins la vision criminelle des personnes qui consomment. Peut-être du coup réduire une certaine stigmatisation, mais certainement pas complètement. D'offrir des soins. Souvent, ça vient dans les deux cas, justement, avec des investissements dans les services de soins, de tout ça. Mais c'est certain que le modèle plus, disons, punitif et avec traitement obligatoire ne reçoit pas du tout l'appui des groupes représentant les personnes qui consomment et de plusieurs militants et experts, parce qu'on sait que le traitement forcé, obligatoire, non seulement rencontre difficilement les enjeux éthiques, mais aussi est très peu efficace. Donc, ça pourrait aider, évidemment, comme je le dis, pour déstigmatiser et offrir de meilleurs soins et que les gens aillent en chercher. Ça pourrait aider de quelques autres façons, déjà d'en parler d'une autre façon, d'ouvrir le dialogue, mais c'est certain que ça a ses limites aussi là, à plusieurs égards.
Vous avez parlé de réduire la stigmatisation, mais pourquoi une personne qui consomme de la drogue n'a pas tendance à aller chercher de l'aide?
Ben c'est ça, en fait, c'est que de facto, le fait que la consommation de substances soit un comportement interdit, de facto, ces personnes-là sont étiquetées comme étant hors normes et ça vient avec une stigmatisation, une déshumanisation, comme si on dévalorisait la personne, comme si c'était dans le fond une mauvaise personne. Puis ça, c'est très bien documenté, ça vient avec toutes sortes de conséquences négatives pour la personne, évidemment, mais même pour la société, là. Les personnes stigmatisées ont honte, vont consommer davantage, vont pas chercher ou vont peu chercher de soins parce que ça confirme qu'ils ont un problème stigmatisé. Ils ont souvent beaucoup plus d'anxiété, de détresse psychologique, de dépression, même souvent plus de tentatives de suicide, d'emprisonnement, des états de santé moins bons, notamment parce qu'on leur refuse aussi des soins. C'est bien documenté que dans les systèmes de soins de santé, les gens qui ont des maladies ou des problèmes stigmatisés se voient refuser aussi des soins. Donc, beaucoup de mécanismes qui font que, finalement, ça aide absolument ni la personne qui a ces problèmes-là ou cette consommation-là, ni la société.
En 2020, le gouvernement fédéral voyait plutôt la solution à ça, que c'était plutôt l'approvisionnement en drogue sûre. Par contre, on voit de plus en plus de médecins et de spécialistes recommander la décriminalisation. Est-ce que c'est parce que l'approvisionnement en drogue sûre n'est pas la meilleure solution?
Bien, c'est une très bonne question. L'approvisionnement plus sécuritaire de substances, qui d'ailleurs, soit dit en passant, une forme de légalisation, là. On parle de... Des fois, ça fait peur, mais c'en est une. Puis c'est justement parce que la décriminalisation en elle-même ne règle absolument pas la question de l'accès à des produits contrôlés, là, les produits adultérés, coupés, qui peuvent causer des surdoses, c'est pas du tout réglé. Donc, mais effectivement, c'est pas suffisant, dans le sens que c'est des programmes souvent qui vont être extrêmement restreints à des personnes qui ont des troubles, mais on sait qu'il y a beaucoup de consommateurs qui n'ont pas nécessairement de troubles et qui n'auraient pas accès. Et donc, ça règle, disons, à peu près, ça règle très peu le problème. Puis, de toute façon, effectivement, la question du contrôle de qualité, ce n'est qu'un aspect. C'est pour ça que la décriminalisation, éviter de criminaliser des gens qui ont soit pas de problème ou qui en ont un puis qui ont besoin d'aide et de soutien beaucoup plus que de punition, bien évidemment, c'est une voie complémentaire. Là. Pour moi, c'est quand même pas... incompatibles les deux, mais même au contraire, là, je pense que si on fait une décriminalisation, si on n'est pas dans une logique d'encadrer ces produits-là et le marché, il faut penser à une forme d'approvisionnement plus sécuritaire.
Monsieur Jean-Sébastien Fallu, j'ai vu dans un article que vous avez parlé, là, c'est bien beau de décriminaliser les drogues, mais après, c'est quoi qu'il y a après? Eh bien justement, si la motion de décriminalisation des drogues est acceptée ici à Edmonton, qu'est-ce que les gens du conseil municipal là, devraient porter attention, surveiller pour définir les prochaines étapes?
Bien, déjà, un peu comme je disais au début, il faut absolument, à mon sens, éviter tout ce qui est la coercition, la punition, la répression, le traitement obligatoire. Il faut travailler de concert avec les groupes communautaires dans toutes les approches, pas juste le traitement puis la prévention, mais la réduction des méfaits. Les groupes de représentants des consommateurs, il faut inclure ces personnes-là dans notre société. Là. Je pense que ça suffit, là, l'exclusion. Et c'est en travaillant avec ces personnes-là, puis en leur offrant des services adaptés à leurs besoins, accessibles, bien financés. Et surtout, je dirais, peut-être pas surtout, mais c'est très important, et c'est des revendications des groupes de personnes qui consomment, c'est que les personnes qui développent des problèmes de consommation, souvent, c'est des personnes qui vivent dans la pauvreté, qui sont dans des milieux, disons, défavorisés, qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, il faut absolument investir dans des politiques anti-pauvreté et de services au niveau de la santé mentale en parallèle.
Comme des projets de maisons abordables, comme on a ici à Edmonton, ça commence à se développer. Est-ce que ça peut être une des solutions qui peut justement contrer cet aspect pauvreté?
Oui, tout à fait. L'accès au logement, c'est vraiment fondamental là, dans les enjeux en pauvreté, en itinérance. C'est le genre de mesures, effectivement, qu'il faut mettre de l'avant.
On voit aussi les villes de Toronto, Montréal et Vancouver aborder le sujet de la décriminalisation. Mais ne serait-il pas un dossier dont le fédéral devrait s'occuper plutôt que le municipal?
Bien, en fait, les municipalités que vous mentionnez, notamment Montréal, ont demandé... ce sont des résolutions qui ont été adoptées et qui demandent justement... au fédéral d'agir et d'avoir des exemptions. C'est sûr que si le fédéral veut pas agir, ben les villes et les provinces ont quand même des leviers juridiques pour faire des demandes, des processus là, d'exemption à la loi. Donc, je pense qu'il faut miser sur tout en même temps. Je vous dirais que tout ce qu'on discute là va se produire un jour ou l'autre. La question, c'est pas si ça va arriver. Ça va arriver. La question, c'est quand. Puis je sais, par exemple, qu'à Edmonton, l'association de police dit c'est trop rapide, ça prend des services. Mais quand vous regardez les gens mourir, puis que vous parlez aux personnes concernées qui ont des expériences vécues, c'est difficile de leur dire faut attendre. Il y a plus lieu d'attendre. Les gens meurent. Il faut agir partout, à tous les niveaux, dès maintenant.
Et est-ce qu'il y a des pays ou des régions dans le monde où la drogue est décriminalisée? Et si oui, comment peut-on s'en inspirer?
C'est une très bonne question. En effet, il y a le Portugal comme pays, il y a d'autres endroits, il y a même aux États-Unis des États qui, Mais le Portugal, c'est vrai que c'est un modèle là, qu'on a beaucoup, je dirais, présenté sous un jour très favorable. C'est assez limite, mais il y a quand même, depuis 2001, là, une décriminalisation de toutes les drogues. On peut s'inspirer du Portugal, je dirais, pour avoir justement des services accessibles en santé, services sociaux, qui sont tenus, réputés et responsables en bonne partie des succès là, qu'on a vus là-bas. Sinon, ben il y a des endroits où on a justement pas d'obligation de traitement, comme à Denver, au Colorado, mais c'est certaines substances. Là. C'est pas toutes les substances. Là. On voit surtout les psychédéliques qui sont les substances là, décriminalisées. Pour ce qui est de toutes les drogues, il n'y a pas d'exemple qui existe là, en ce moment, à part le Portugal, qui a ses limites.
C'était Jean-Sébastien Fallu, professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal. Il nous a parlé de ce que la décriminalisation de drogue pourrait apporter. Une motion pour décriminaliser les drogues à Edmonton a été retardée au 7 février. Je vous remercie beaucoup, M. Fallu, d'avoir pris du temps pour cette entrevue. C'est très apprécié.
Merci à vous.